Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin. On est venu rejoindre le froid de Cré. Il y a une alerte orange sur notre région pour ce soir, donc il fera froid aussi chez nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au cinéma. Nous, c'est assez rare qu'on aille au cinéma. Mais cette semaine, on a eu l'occasion avec Eva de que nos enfants soient gardés et qu'on aille au cinéma voir Avatar en 3D. Je ne sais pas si vous êtes fan de ce genre d'histoire ou pas. En tout cas, c'est quand même du grand spectacle. Et j'étais frappé en regardant le film et aussi en regardant les bandes-annonces avant le film, combien le thème de la famille est un thème qui revient fortement dans les différents films qui sont produits. Dans les bandes-annonces et puis le film lui-même, la famille, ce thème de la famille revient fortement. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une société où la famille est mise à mal, où elle est... Elle a été beaucoup transformée pendant les dernières décennies. Mais en fait, il y a toujours ce besoin, au fond de chacun d'entre nous, d'appartenir. La série Friends, de ceux qui sont une génération d'avant, est en plein là-dedans. Hein, une famille, une connexion les uns aux autres qui fait qu'on peut vivre quelque chose qui transcende pas seulement ce que moi je vis, mais quelque chose qu'on vit ensemble et quelque chose qui nous dépasse. C'est un thème qui revient très souvent dans les films et dans les histoires. Et je crois que c'est parce que c'est implanté dans qui nous sommes. Nous avons été créés pour appartenir. C'est ce dont on a parlé ce matin avec cette adoption. Et donc ce matin, j'aimerais vous parler de l'ADN du disciple, sans faute d'orthographe. Si vous avez vu, il y a eu une inversion de lettres. Je m'en suis aperçu ce matin avant le culte et je n'ai pas pu modifier. Donc disciple avec les lettres dans le bon ordre. Qu'est-ce que c'est être un disciple de Jésus ? Dans cette histoire d'Avatar, on voit une famille qui ont une connexion forte les uns aux autres. Il y a d'ailleurs une histoire d'adoption dans cette famille d'Avatar. Je ne vais pas vous donner la fin pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais je donne quand même quelques éléments. Il y a une famille qui vit des choses très fortes les uns avec les autres. Et une partie du film, c'est une famille qui est en exil, va mettre l'emphase sur les bonnes choses qui sont vécues dans des temps de paix dans la famille. Et dans le même temps, le film monte en tension parce qu'il montre que cette famille... Elle n'est pas seulement bien ensemble, mais elle a aussi une mission, quelque chose qui la dépasse, qui va même les obliger à sortir de leur confort, leur petit cocon familial, pour aller affronter une grande aventure avec d'autres. Et il y a quelque chose qui rappelle ici ce que c'est être un disciple de Jésus. On va voir pendant ce texte qu'on va lire tout à l'heure que, en tant que disciple, on est appelé à appartenir, adopter, on appartient à cette famille de Dieu. Et dans le même temps, on est impliqué dans quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas juste moi, ma famille, mais non, il y a quelque chose de plus grand. Le royaume de Dieu qui est en train de venir, dans lequel nous sommes imbriqués. Et vous allez voir, on va le voir au travers du chapitre 17 de l'évangile de Jean. On n'aura pas le temps de tout lire. Mais on va lire quelques versets de la prière du Seigneur en Jean 17. Donc j'aimerais vous rappeler le contexte de ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. On est dans la chambre haute, on est quelques heures avant la croix. Les disciples, ils viennent de vivre 3 ans et demi les plus dingues de toute leur vie. 3 ans et demi avec le Seigneur. Et puis la tension est montée ces derniers mois. Le Seigneur a été maintes fois... menacés de mort. Et on s'en approche, et le Seigneur leur a même dit plusieurs fois qu'il devait aller vers Jérusalem et mourir. Et on a l'impression que les disciples, ils ont pas envie d'y croire, et puis ils se retrouvent là dans cette chambre haute pour célébrer la Pâque ensemble. Et dans cette chambre haute, le Seigneur va dire, dans un cœur à cœur, des choses marquantes pour eux. On n'a pas le temps de le voir maintenant, mais ça c'est le contexte du chapitre qu'on va lire. Notamment, ça va commencer au chapitre 13, où le Seigneur va faire un truc complètement choquant pour eux. Alors qu'ils sont assis dans cette chambre haute, ils s'apprêtent à manger le repas, le Seigneur enlève sa tunique, il va prendre une bassine et il se met à laver les pieds des disciples. Le maître, celui qui a accompli tous les miracles, le Fils de Dieu, le Messie qu'ils ont reconnu, leur lave les pieds. Et puis c'est comme ça que ça commence dans cette chambre haute où Jésus va leur dire plusieurs paroles très fortes. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que je vous enverrai le Consolateur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc voilà un peu les choses que le Seigneur leur dit dans ces chapitres, dans la chambre haute. Et puis on comprend que pendant qu'ils sont dans la chambre haute, à un moment donné, ils vont quitter la chambre haute, probablement descendre dans les rues de Jérusalem. Et Jean continue de nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Et Jean 17, on en arrive probablement, ils sont en train d'approcher peut-être la vallée du Cédron qui est en contrebas de Jérusalem. On sait que la scène suivante, elle se passera où ? Sur la montagne, juste en face de Jérusalem, sur le mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémané, où le Seigneur sera tenté encore une fois, arrêté, et les prochaines heures, c'est la croix. Donc voilà le contexte de Jean 17. Quand Jésus commence à prier, on ne va pas le lire ce matin, mais je vous invite peut-être à le relire à la maison, les 5 premiers versets, il prie pour que sa gloire soit manifestée. « Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. » Comment est-ce que la gloire de Jésus est révélée ? Dans ces versets, il dit « Parce que tu as donné tout pouvoir à ton Fils pour qu'il puisse donner la vie éternelle. » On est en plein l'adoption. La gloire de Dieu, c'est de vous nous adopter. La gloire de Dieu, la manière dont la gloire de Dieu est manifestée dans ces versets, c'est le fait que Jésus a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Si on continue les versets suivants, 6 à 19, cette fois Jésus va prier pour les 11. Ils sont plus 12 depuis quelques minutes, parce que ce que je ne vous ai pas dit pendant ces chapitres, c'est aussi pendant ce temps dans la chambre haute que Jésus, dans une ambiance qui devait être extraordinaire, alors qu'ils sont en train de prendre la Pâque, il dit « L'un de vous va me trahir. » Ça a dû jeter un froid. Et plus loin que ça, alors qu'il est interrogé, il va prendre le morceau de pain et il va le donner à Judas. Il dit, ce que tu as à faire, à toi de le faire. Et Judas va partir. Donc ils ne sont plus que 11. Et donc dans ces versets 6 à 19, qu'on ne va pas lire ce matin, Jésus il va prier pour les 11. Il va dire, qui vous êtes ? Vous êtes ceux qui avaient cru en moi, ceux qui avaient été choisis par Dieu. Et vous êtes ceux que j'envoie maintenant. Vous n'appartenez pas à ce monde, mais je vous envoie dans ce monde. Et il va leur dire aussi, ma gloire est manifestée. Il parle à Dieu, ma gloire est manifestée en eux. Le « eux », c'est les 11 disciples. Et puis ensuite, on en arrive donc au verset qu'on va lire aujourd'hui, les versets 20 à 26. Après avoir prié pour lui-même, après avoir prié pour les 11, Jésus va prier pour toi et moi, pour ceux qui croiront sur le témoignage des disciples. Et j'ai résumé ce passage par ce verset qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je vais revenir sur cette histoire de gloire. Je vous propose qu'on puisse lire ces versets maintenant, dans le contexte que je viens de vous donner, que le Seigneur, alors qu'on lit cette parole, ces quelques versets, il puisse par son esprit toucher nos cœurs. C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous réalisions, quand nous lisons ces versets, que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui prie le Père en présence du Saint-Esprit. Nous allons accéder, alors que nous lisons ces versets, au QG de la Trinité. Nous entrons dans la présence même de l'intimité où le Fils parle au Père. Ce n'est pas seulement une prière comme quand nous prions. C'est Dieu qui parle à Dieu et qui prie cette prière. Donc c'est bien plus qu'un souhait ou qu'une prière, c'est la volonté pure de Dieu. Si vous posez la question « Quelle est la volonté de Dieu ?», il y a des passages de la Bible qui en parlent, c'en est un où on a accès à la volonté de Dieu, puisque c'est le Fils, Dieu, qui parle à Dieu en présence du Saint-Esprit. On est vraiment dans le « Waouh !» On a accès à l'intimité de la Trinité qui est en train de prier, de parler les uns avec les autres. Et il parle de qui ? Il parle de nous. Donc voilà la volonté de Dieu pour nous, ce qu'on va lire maintenant. Je ne prie pas pour eux seulement, donc les 11 disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. J'aimerais nous faire remarquer trois choses qui sont présentes dans ce texte, et puis prendre le temps de réfléchir, puisque c'est ici la volonté de Dieu pour nous, comment nous devons repartir après avoir lu et entendu ces paroles? Qu'est-ce qu'on devrait laisser Dieu faire dans nos vies en lisant cette volonté? Donc Jésus prie pour ceux qui croiront après les disciples. Nous sommes en 2023 et nous faisons partie de ceux qui ont cru après. Et Jésus définit qui sont ceux pour qui il prie. Il dit « ceux qui croiront en Jésus au travers du témoignage des apôtres ». Qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus? C'est quelqu'un qui croit dans le témoignage des apôtres. C'est quelqu'un qui croit que la parole de Dieu, qui a été écrite au travers des apôtres par le Saint-Esprit, est parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui croit, du coup, que la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est parole de Dieu. Quand nous regardons dans les versets précédents que nous n'avons pas lus, qui sont les disciples, on comprend aussi que les disciples sont ceux qui ont été choisis par Dieu. Cette adoption dont nous avons parlé ce matin. Donc j'ai une question pour nous. Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été fait homme pour nous racheter et faire de nous ces enfants adoptifs dont nous avons parlé ce matin? Si oui, ce qui suit est pour toi et moi. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux grands hommes et femmes de Dieu, non. Ce qui est écrit là, c'est écrit pour chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ. Ces versets, ils sont dans un contexte très particulier, puisque dans les chapitres précédents, Jésus dira à plusieurs reprises, « Je vais à un endroit où vous ne pouvez pas me suivre. » Pierre qui dit « Non, mais moi, j'irai avec toi !» Il dit « Non, tu ne pourras pas me suivre. Après, tu viendras. » De quoi est-ce qu'il parle, Jésus? Il parle de la croix. On est quelques heures avant un chemin que Jésus devait emprunter, que seul lui pouvait emprunter. Et toi et moi, nous ne pouvions pas emprunter ce chemin. C'est le chemin qui mène au Père. Nous étions séparés du Père à cause de notre cœur tortueux, à cause de notre incapacité à faire les choses que nous aimerions faire, à cause de notre incapacité à réussir à obéir à Dieu comme nous le voudrions. Mais Jésus a emprunté ce chemin, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et il a rendu possible ce chemin vers le Père, comment? Par la croix. En prenant sur lui le prix de notre condamnation, il s'est fait péché pour nous, la Bible nous dit, et il a échangé à la croix un troc inadmissible, choquant. Il prend notre condamnation et il nous donne sa justice, faisant de nous des personnes dignes de s'approcher d'un Dieu trois fois saint. Qui sont les disciples de Jésus? Ce sont ceux qui sont au bénéfice de la croix et de la résurrection, de la victoire en Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton cas ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à croire, à accepter que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est le moyen que Dieu a prévu pour qu'on puisse connaître son amour et sa présence. Deuxième chose qu'on voit fortement dans ce texte, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Nos vies sont en lien direct avec la gloire de Dieu. Il nous a donné la gloire que le Père a donnée au Fils. C'est un peu ahurissant quand on y réfléchit. Vous vous rendez compte, nous qui sommes là, à créer dans cette salle, Quand Jésus prie pour nous, il est en train de dire, de rappeler, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Nos vies sont au bénéfice de la gloire de Dieu et nos vies sont appelées à refléter la gloire de Dieu. Pas comme le soleil éclaire, mais comme la lune éclaire. La lune est un merveilleux astre qu'on peut observer nuit et jour. Mais la lune en elle-même n'a aucune lumière. Nous le savons, nous qui avons fait des longues études en astronomie, nous savons que la lune n'est que le reflet de la lumière du soleil. Si nous sommes concernés par la gloire de Dieu, ce n'est pas que nous avons une gloire en nous-mêmes, c'est parce que Dieu nous donne sa gloire. Et j'aimerais faire une remarque ici, puisqu'on est dans le contexte de la prière. Jésus prie. Il y a d'autres endroits où on voit Jésus prier, notamment le Notre Père. Et ce thème de la gloire de Dieu est toujours présent. Quand Jésus prie pour lui-même, il prie pour la gloire de Dieu. Quand Jésus prie pour les onze, il prie pour la gloire de Dieu. Quand Jésus prie pour nous, il prie pour la gloire de Dieu. Moi, quand je prie, parfois c'est ma propre gloire que je mets en objectif. Et il y a ici un enseignement qui est vraiment puissant pour nous dans notre vie de prière. Lorsque nous prions, nous sommes invités à prier au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en orientant notre demande, notre soumission pour la gloire de Dieu. Lorsque nous prions pour un travail, lorsque nous prions pour la maladie, pour des guérisons, lorsque nous prions pour différents sujets, Seigneur, apprends-nous à prier en ayant ta gloire en ligne de mire. Non pas ma gloire, mais ta gloire à toi. Et puis j'arrive à la troisième et la chose la plus importante que j'aimerais vous faire remarquer dans ce texte. Pour ça, je vais employer un peu des gros mots, ce n'est pas le but ici, mais j'aimerais vous montrer quelque chose que nous devons voir alors que nous allons relire ces versets que nous avons lus. J'ai écrit « Théologie de l'Alliance et du Royaume » et j'ai symbolisé l'Alliance par ce signe et puis le Royaume par ce signe. Lorsque nous ouvrons les pages de la Bible, dans la Genèse, nous pouvons voir que Dieu, avec Adam et Ève, puis avec Noé, il fait alliance. Pour cela, dans le texte hébreu, je ne suis pas fort en hébreu, il utilise deux mots, bérit, qui veut dire alliance, et barak, pour ceux qui connaissent des juifs, la baraka, la chance, ça veut dire la bénédiction. Dieu, avec Adam et Ève, c'est le Dieu trinitaire dont nous avons parlé pendant le culte qui décide d'adopter, d'ouvrir cette famille trinitaire à des créatures. Dieu va faire alliance avec Adam et Ève et il va les bénir. Si vous lisez Genèse 1 et 2 et 3, vous voyez ce mot qui revient, bénir, bénir, avec Noé aussi. Et ici, ça nous parle de quelque chose qui traverse l'histoire de la Bible, que Dieu veut faire alliance avec nous, il veut nous bénir. Toujours dans l'histoire d'Adam et Ève et de Noé, il y a un autre mot hébreu qui veut dire qui est para en hébreu, ça veut dire être fructueux, se multiplier. Et on voit ces deux choses dans Genèse, j'espère que vous les voyez avec moi, où Dieu bénit et fait alliance avec Adam et Ève, il fait d'eux les princes et princesses de ce monde, mais il ne fait pas que les bénir, il y a quelque chose qui les dépasse. Ce qui les dépasse, c'est que Dieu les appelle à être des acteurs pour la multiplication de son royaume, pour l'avancement de son royaume. Il leur dit, multipliez-vous, assujettissez la terre, multipliez-vous, soyez fructueux. La chute arrive, une nouvelle page se tourne, Noé, rescapé de la grâce de Dieu, reçoit mot pour mot les mêmes paroles. Je veux faire alliance avec toi, je veux te bénir et je te confie une mission qui te dépasse. Multiplie-toi. Participe à l'avancement de ton royaume. Vous vous rappelez d'Avatar tout à l'heure ? Ce côté appartenance et puis quelque chose qui dépasse, qui fait qu'on est impliqué dans quelque chose qui sort de notre seul contexte à nous. Je continue pour vous le montrer parce qu'en fait, on peut voir ça dans toute la Bible. Si je prends Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qui se passe avec Abraham ? Dieu fait alliance avec Abraham. Vous pouvez le lire en Genèse 15, 16, 17. Dieu fait alliance avec Abraham dans une alliance où c'est Dieu qui s'engage. Et il bénit Abraham, il lui promet une descendance, qu'il aura un fils, il lui promet un pays, et il lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Et Dieu confie aussi à Abraham d'être acteur dans ce plan qui le dépasse. C'est tellement dingue que Hébreux 11 nous apprend que Abraham, il ne verra même pas ce dans quoi il est impliqué. Ce qu'il verra, lui, c'est son fils. Et vous vous rappelez que ce n'est pas simple, hein ? Il y a d'abord une tentative, et puis ensuite le fils de la promesse arrive. Et en fait, il est impliqué dans ce para, ce multiplier qui le dépasse. Lui, il ne verra que par la foi ce que Dieu est en train de faire au travers de sa famille. Isaac, Jacob reçoivent la même promesse. Et ils sont eux aussi impliqués dans cette alliance avec Dieu et dans cette multiplication à laquelle Dieu les appelle. Si on continue à tourner les pages de la Bible, on voit Moïse. Dieu fait alliance avec Moïse et le peuple sur le mont Sinaï. Le Dieu trois fois saint qui va faire alliance et qui va bénir un peuple pécheur. Comment est-ce possible ? Le tabernacle est donné et les sacrifices sont donnés parce que sinon ce n'était pas possible que Dieu puisse bénir des pécheurs comme le peuple. La grâce de Dieu continue de bénir et de faire alliance. Et dans le même temps, quelle est la responsabilité du peuple d'Israël ? D'être une lumière pour les nations. C'est en regardant à Israël que les nations sauront que je suis le Dieu créateur. Et puis on en arrive à la croix, au Seigneur Jésus, qui va tout accomplir pour que cette alliance soit possible. C'est ce que nous avons célébré par la Sainte Cène, mais qui va aussi envoyer son esprit pour que nous puissions porter du fruit et participer à la multiplication. Voilà notre identité en tant qu'Église. Nous sommes appelés à appartenir à Dieu par les bénéfices de la croix, mais nous devons comprendre aussi que nous sommes appelés à prendre part à un plan qui nous dépasse, dans lequel nous avons été au bénéfice de ce plan. Dieu avait un jour choisi d'avance, on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 1, de se faire connaître à toi. C'est dingue. Mais Dieu n'avait pas seulement choisi de se faire connaître à toi, il veut aussi t'utiliser dans ce plan qui nous dépasse. Je ne sais pas si vous voyez ce schéma qu'on trouve dans toute la révélation biblique et qu'on peut comparer à l'ADN. Alors moi, je ne suis pas du tout un scientifique, mais je sais que dans l'ADN, il y a deux brins. Le mot, c'est brin. Demandez pas plus, je ne comprends pas grand-chose. Mais il y a deux brins. Ces deux brins de l'ADN du chrétien, je peux les résumer par deux mots. Venez et allez. C'est quoi le premier mot que Jésus prononce à ses disciples quand il les rencontre qui sont en train de pécher ? Venez, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'histoire commence comme ça. Il y a des gars, ils sont en train de pêcher, et il y a le Seigneur qui vient les voir, qui leur dit « Venez ». Le Seigneur a fait comme ça avec nous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez entendu ce « Venez » de Dieu. Et ce serait génial d'avoir le temps de partager comment c'était votre « Venez » à vous. Mais Dieu nous a appelés à le connaître. Venez. Quel est le dernier mot que Jésus prononce avec ses disciples quand il est sur le mont des Oliviers, juste avant son ascension ? Allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais cet ordre, allez. Quand on regarde ensuite dans le livre des Actes, qu'est-ce qui se passe ? Un venez et allez permanent. Jésus appelle par ses disciples des hommes et des femmes à le connaître, venez, et ces hommes et ces femmes vont être impliqués dans l'avancement. On voit dans le livre des Actes souvent ce mot « et l'Église se multiplier », « et l'Église se multiplier ». C'est ce même para, alors c'est en grec cette fois, qui est toujours là, ce venez et ce aller. C'est bon, vous voyez l'image ? J'espère que vous l'avez, que vous m'avez suivi, ce venez et ce aller qu'on trouve dans la révélation biblique et qui fait partie de notre identité de chrétien. Avec ça en tête, j'aimerais qu'on retourne à notre texte. Et j'ai extrait les versets 22 à 23 de ce texte. Je vais le relire. Et pendant que je lis, posez-vous la question, est-ce qu'on voit ce venez ? Est-ce qu'on voit l'alliance, la bénédiction ? Et est-ce qu'on voit ce aller, ce royaume ? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous voyez le côté alliance? Est-ce que vous arrivez à me dire les mots que vous trouvez qui parlent de l'alliance? Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. D'accord? C'est les deux choses qu'on voit dans le texte qui parlent de l'alliance. C'est ce mot « un » qui revient. Dieu fait alliance avec nous, et la prière de Jésus pour toi et moi, c'est que nous soyons un avec la Trinité, un avec Dieu, connectés à Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, il dit « Je prie aussi qu'ils soient un entre eux, comme moi le Fils, je suis un avec toi le Père et le Saint-Esprit. » Dans ces versets, Jésus prie, vous vous rappelez que ce n'est pas un souhait, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous soyons connectés à Dieu au point qu'il peut dire nous sommes un. C'est dans Romains 6 qu'on trouve ce mystère, où Romains 6 explique le baptême, et Romains 6 prend l'image de la greffe. Et il dit, nous avons été greffés à Jésus-Christ, nous sommes un avec lui. Lorsque nous avons cru, nous sommes devenus, le grec dans Romains 6 dit, une même plante. Greffé avec lui. C'est l'image de Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes un, adoptés, nous sommes un avec Dieu. Et la conséquence de ça, c'est que si moi je suis un avec Dieu et que toi tu es un avec Dieu, ça veut dire que nous avons un lien très 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 fort puisque nous sommes un en Dieu. Ça c'est la chose la plus géniale. L'année dernière, on a eu l'occasion de voyager, on a eu une année sabbatique en tant que famille et on est allé en Angleterre où on connaissait personne, on ne maîtrisait pas la langue. Et pourtant, on s'est senti aimé par des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient un en Jésus et nous étions unis en Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on vit un culte ensemble, on vivra une éternité ensemble. Et il n'y a rien qui peut changer ça, parce que nous sommes connectés à Dieu et connectés les uns aux autres. Cette unité, on n'a pas à la créer. C'est une réalité qui découle de notre attachement à Jésus. Nous sommes connectés les uns aux autres. Est-ce que maintenant vous voyez le royaume dans ces versets ? Ce « aller », c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors la gloire y est présente, mais pas dans ces versets-là, c'est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Je l'ai entendu, quelqu'un l'a soufflé, mais elle... ainsi que le monde reconnaisse. Vous voyez que quand Jésus prie, il parle de notre unité avec Dieu, il parle de notre unité les uns avec les autres, et c'est de cette unité que le monde reconnaîtra que Christ est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas une option. C'est la volonté de Dieu pour nous, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est que nous soyons connectés à Dieu, connectés les uns aux autres, et connectés au monde qui ne connaît pas Jésus. C'est dans ces passages, hein, que tout à l'heure on l'a lu, que Jésus dit « Vous n'appartenez pas au monde, mais je vous y laisse, parce que vous êtes mes envoyés. » Voici notre ADN d'être connectés à Dieu, connectés les uns aux autres, et connectés au monde. Alors, je vous ai dit que j'étais en Angleterre l'année dernière et je vous propose de résumer ça avec trois petits mots. Désolé s'il y en a qui ne parlent pas du tout anglais, mais trois petits mots qui sont faciles. Alors, pardon, on voit le « venez » ici dans l'alliance et puis le « aller ». Et les trois petits mots, c'est « up », « up » qui veut dire « vers le haut ». Donc ça, c'est une des dimensions relationnelles de notre vie chrétienne, c'est connecter à Dieu. « Up ». Une autre dimension de notre ADN de disciple, c'est, j'ai appelé ça « in », qui veut dire connecter les uns aux autres. Et puis, la troisième dimension, out, connecter au monde. Voici l'ADN de notre vie de disciple. Connecter à Dieu, connecter les uns aux autres, connecter au monde. Up, in, out. Voilà la volonté de Jésus quand il prie pour nous. Que nous manifestions la gloire de Dieu, nous qui avons cru, en étant connectés à Dieu, connectés les uns aux autres et connectés au monde. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça, je vais vous l'expliquer. Imaginez que, au centre de cette toile d'araignée, c'est zéro. Et imaginez que plus vous remontez le long d'une ligne, on arrive à, je ne sais pas, comme vous voulez, 5 ou 10. Et donc, on peut, sur chacun des trois axes qui sont présents, se poser la question, moi, dans ma vie, où est-ce que j'en suis dans ces trois dimensions? Si je devais placer un curseur, comment est-ce que je suis connecté à Dieu dans mon quotidien? Comment est-ce que je suis connecté avec mes frères et sœurs? Et comment est-ce que je suis conscient et impliqué dans cette mission que Dieu me donne d'être connecté au monde? Je vous invite à vous poser cette question et à essayer de dire, tiens Seigneur, c'est quoi que tu es en train de me dire? Est-ce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage? L'année dernière, c'était un temps sabbatique, je vous l'ai dit, pour nous, et ça a été l'occasion pour Dieu de nous rappeler quelle est notre identité. Pendant ce temps sabbatique, on a laissé toutes nos responsabilités, toutes nos casquettes. J'étais plus responsable d'église, de quoi que ce soit. J'étais juste un membre dans une église en Angleterre. Qu'est-ce que c'était bon de remettre les pendules à l'heure, de dire mon identité, elle est en toi, Jésus. Elle n'est pas dans ce que je fais. Seigneur, où est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrage dans ma vie? Est-ce que c'est le up, c'est la priorité, ma connexion à toi? Est-ce que c'est aussi le in, ma connexion les uns aux autres? Est-ce que c'est le out? On peut se poser la question en tant qu'église. Si on devait mettre le curseur dans l'église, où est-ce que je mettrais le curseur? Comment en tant qu'église on vit se connecter à Dieu? Le dimanche matin, certainement, on l'a vécu ce matin. Mais comment est-ce que dans le quotidien de l'église, on vit se connecter à Dieu? Comment est-ce qu'on vit ce in, se connecter les uns aux autres? Comment est-ce qu'on vit ce out, se connecter au monde? On peut se poser la question en tant que famille. Je vois pas mal de familles ici. En tant que famille, nous recevons cette identité de Dieu. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu, nous dit Éphésiens. Comment est-ce qu'en tant que famille, nous sommes intentionnels pour nous connecter à Dieu, pour nous connecter les uns aux autres et pour nous connecter au monde? J'ai fait plein de schémas ce matin. Ici, en jeune, c'est nous, c'est vous. Vous voyez, vous reconnaissez le rang devant à gauche? C'est l'Église rassemblée ici. C'est nous en ce moment. C'est nous, ceux qui sommes unis à Dieu, unis à Jésus-Christ, nous sommes rassemblés en ce moment le dimanche matin. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connectés à Dieu, on s'est connectés les uns aux autres, on a partagé un repas ensemble. Et on est en train de vivre quelque chose de fort dans le « up » et le « in ». 1 Corinthiens 14 nous dit que si quelqu'un vient dans ce moment où nous sommes rassemblés, probablement qu'il sera frappé par la présence de Dieu. Et donc, il y a une partie « out » aussi, parce que c'est que lorsque l'on goûte à la présence de Dieu, comme nous l'avons vécu ce matin, que Dieu peut toucher les cœurs. Cet après-midi, comment ça va se passer? Et cette semaine, où est-ce que vous serez? Nous serons plus probablement dans cette configuration dispersée. Les uns dans votre travail, les autres dans votre famille, dans votre voisinage. C'est génial de remarquer que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie du dimanche matin. C'est une vie de tous les jours. Et j'aime cette image qui nous est donnée dans les évangiles. Est-ce que vous vous rappelez d'un petit homme qui doit monter à un arbre? Zachée. Zachée, c'est un homme de petite taille. Et il a entendu parler de Jésus. On sait que c'est un gars qu'on n'aimerait pas croiser. Il était voleur, il était collabo. Je ne vais pas donner plus de détails que ça. Mais Zachée, il a envie de voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait pour voir Jésus? Il monte sur un sycomore. Il monte sur un arbre. Jésus, il est là sur son arbre, et puis Jésus passe, et là, qu'est-ce qui se passe? La scène, elle est énorme. Jésus marche, tac, il s'arrête sous l'arbre, il lève la tête, et il dit, Zachée, en gros, descends de ton arbre, je veux aujourd'hui demeurer dans ta maison. Et c'est ce qui va se passer. Jésus, le texte dit, le salut est entré dans cette maison. La vie de Zachée va être complètement transformée. Le mot maison, en grec, c'est oikos, qui veut dire maisonner. C'est plus large que la maison, c'est dans sa famille. Zachée, il aurait pu se contenter de voir Jésus depuis son sycomore, depuis son arbre. Mais Jésus lui a dit, je ne veux pas que tu restes sur ton sycomore. Je veux que tu descendes, parce que moi je veux demeurer dans ta maison. Parfois, nous pouvons faire de l'église un sycomore. On a envie de voir Jésus, on monte sur le sycomore, on vient à l'église. Oh, c'est trop bien. On voit Jésus, on sent sa présence. Puis après, on ferme la porte et on descend du sycomore. Et on reprend nos vies sans forcément Jésus. Des bonnes choses peuvent être des sycomores. Parfois, c'est une personne qui peut être un sycomore. Je vis ma vie spirituelle parce que cette personne, elle m'apporte tellement de choses. Mais si elle n'est pas là, c'est comme si je descendais du sycomore et du coup, je ne vois plus Jésus. Ce que Jésus veut, ce n'est pas qu'on monte sur des sycomores. Ce que Jésus veut, c'est qu'il vienne demeurer chez nous. Là où c'est un peu le bazar. Là où il y a des choses à venir mettre en lumière. Des choses qui ne sont peut-être pas jolies. Mais c'est là que Jésus veut venir, dans chacune des pièces de nos vies, de notre maison, dans notre quotidien, pas seulement le dimanche matin, mais dans le quotidien de nos vies, dans nos vies de couple. Je veux demeurer dans ta maison. Donc vous voyez ce moment où on est dispersé, c'est un moment où nous sommes appelés à vivre ce up, ce in et ce out. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement lorsqu'on est en église. Je dois vous donner mon témoignage par rapport à ça. Pendant des années, j'ai travaillé pour l'éducation nationale, notamment en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, ces dernières années, dans un milieu très, très, très laïque, où très compliqué de parler de sa foi, et je suis sûr que parmi vous, beaucoup se reconnaissent dans ce contexte-là. Et tous les matins, je priais, « Seigneur, donne-moi de pouvoir être rempli de ton esprit alors que je vais au travail et que je puisse être ton témoin. » Oh, franchement, c'était dur. Et parfois, quel poids il y avait sur mes épaules devant cette responsabilité d'être l'image de Jésus-Christ là où Dieu m'a envoyé. Mais je pense que c'est une bonne chose de réaliser que nous sommes l'image de Jésus-Christ là où Dieu nous a envoyé. Mais je fais remarquer quelque chose dans le texte que nous avons lu, la prière de Jésus, et qu'on voit dans les évangiles et dans le livre des Actes. Quand les disciples sont envoyés, est-ce que c'est seul ? Deux par deux à minima. Et souvent, on les voit à plus. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se convertit dans le livre des Actes ? Imaginez quelqu'un se convertit dans la famille, et c'est toute la maisonnée qui se retrouve impactée, et cette maisonnée, c'est le même mot, oikos, que pour avec Zaché, qui va tout d'un coup toucher le voisinage et les personnes qui sont autour. En fait, c'est plus dans cette configuration-là que Dieu nous envoie. C'est ensemble. Et ça a été quelque chose qui nous a beaucoup marqué avec Eva l'année dernière pendant notre temps sabbatique. C'est que oui, nous faisons bien d'encourager l'Église à réaliser qu'elle est l'Église pas seulement quand elle est rassemblée, mais aussi quand elle est dispersée. Sauf que nous traduisons peut-être un peu ce mandat du « out » de manière trop individualiste, telle que notre société le voit. Nous sommes des héros là où nous devons aller pour être l'image de Jésus-Christ. Sauf que la réalité, c'est que mes collègues de boulot à l'éducation nationale, ils m'ont vu être un peu différent des autres, super, plein de fois j'ai été un bon témoignage. Mais ils ont vu aussi la fois où ma parole est allée trop loin et où je me suis mis à médire avec eux sur telle personne. Et je ne leur ai pas toujours montré Jésus en moi. Alors quand le Seigneur m'a repris, j'ai demandé pardon pour ça. En fait, j'avais besoin de vous pour que mes collègues de boulot, ils voient d'autres facettes de Jésus, pas seulement au travers de moi, mais au travers d'autres personnes. Quand Jésus envoie ses disciples, c'est au pluriel que ça se fait. Soyez connectés à Dieu, soyez connectés les uns aux autres, et ainsi le monde verra qu'il y a un Créateur qui a envoyé son Fils Jésus. Comment est-ce que nous pourrions imaginer vivre plus souvent des moments de vie ensemble, donc pas seulement le dimanche matin, mais lorsque nous sommes dispersés, dans les parcs, une balade, faire des courses, où nous pouvons être connectés les uns aux autres dans le quotidien, en contact avec ceux qui nous entourent. Je connais un groupe de maisons qui a fait de cette vision vraiment son objectif, et il y a un des membres du groupe de maisons où les voisins, l'enfant est tombé gravement malade d'un cancer. Et le groupe de maisons a été ému par cette situation, et ils ont commencé à s'investir dans cette famille qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait juste un des membres du groupe qui le connaissait. Cette famille n'était pas chrétienne. Et ils ont commencé à aider, à aller à l'hôpital, à aller chez le médecin, à aller chercher, à faire les courses, etc. Et tout d'un coup, c'est le groupe de maisons connectés les uns aux autres, connectés à Dieu, qui était connecté au monde, à l'entourage de ces personnes. Et Dieu a fait une œuvre incroyable. Alors c'est une histoire qui finit pas toujours comme ça, mais ce petit garçon a été guéri, il s'est converti, il a été baptisé, et ça a eu un impact sur la famille. C'est exactement ce qu'on voit dans le livre des Actes. Des chrétiens connectés à Dieu, connectés les uns aux autres, qui ont un impact autour d'eux. Et donc ce matin, j'aimerais nous encourager à nous poser la question, Seigneur, comment est-ce que tu veux rendre ça vrai dans ma vie aujourd'hui, encore plus vrai? Comment est-ce que je peux être plus connecté à toi dans ma vie quotidienne, dans ma piété, mais aussi connecté à toi collectivement? Est-ce que tu m'appelles à avoir un ou deux frères et sœurs et à se retrouver ensemble pour lire la Bible et prier ensemble, pour qu'ensemble on se connecte à toi? Comment est-ce que je peux vivre ça d'une manière plus intentionnelle? Connecter les uns aux autres, comment tu m'appelles, Seigneur, à m'investir dans la vie des gens, à que ce ne soit pas seulement le dimanche matin, mais qu'on puisse vivre quelque chose de fort parce que nous partageons une éternité ensemble. Comment est-ce que, Seigneur, tu nous appelles, connectés les uns aux autres, à avoir un impact autour de nous? Up, in et out. Je vous propose qu'on prie et qu'on laisse le Seigneur toucher nos cœurs sur le up, sur le in, sur le out. Où est-ce que le Seigneur, il nous appelle à pouvoir être plus intentionnel, à le laisser plus agir dans ces trois dimensions relationnelles qui sont l'ADN du chrétien? Seigneur, merci parce que tu nous montres ta volonté dans ta parole. Et dans ces merveilleux chapitres de Jean 13 à 17, tu nous donnes accès à une intimité avec toi, celle que les disciples ont vécue. Merci parce que dans ces chapitres, tu nous montres que nous avons désespérément besoin d'être connectés à toi par le bénéfice de la croix. Merci parce que tu as rendu cela possible en allant vers ce jardin de Gethsémané et en acceptant que ce ne soit pas ta volonté, mais la volonté du Père qui s'accomplisse. Et tu t'es laissé clouer sur cette croix. Tu t'es chargé de notre péché, de notre condamnation. Tu l'as porté sur tes épaules, toi qui es saint. Et tu es mort avec ce péché que tu prenais pour ton compte. Seigneur, merci parce que tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité. Tu as vaincu le péché, la mort, le diable. Et tu nous as mis au bénéfice de cette victoire en nous donnant une vie nouvelle qui a rendu possible que tu viennes demeurer en nous par ton esprit. Et Seigneur, lorsque tu pries pour nous, tu pries pour que nous soyons connectés à toi, un avec toi, que nous soyons un les uns avec les autres, et que le monde voit à cela que tu les appelles aussi à te connaître, cette lumière pour les nations. Ô Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que dans nos vies de piété, notre attachement à toi, tu nous donnes de pouvoir grandir, avoir un temps intentionnel avec toi, de lire ta parole, de prier. Non seulement individuellement, mais aussi peut-être collectivement, dans ce pluriel que l'on voit. Donne-nous de pouvoir nous encourager les uns les autres dans cette vie de piété, par des groupes de croissance ou par je ne sais quel autre moyen que tu veux mettre sur nos cœurs. Seigneur, je te prie pour notre unité, non seulement les uns les autres dans l'église locale, mais l'unité des chrétiens. Tu vois, Seigneur, combien notre paysage évangélique, protestant, chrétien, est bien souvent émaillé par des désaccords et des disputes. Ô Seigneur, que tu travailles dans nos cœurs en tout premier ce désir d'unité, ce désir de pouvoir être connectés les uns aux autres et que le monde voit que cet amour que nous avons pour les uns pour les autres vient de toi et qu'il y a là un miracle. Seigneur, je te prie pour notre compréhension de notre identité, pas seulement dans le up et le in, qu'on ne reste pas un club fermé qui est bien, une famille qui est bien en entre-soi, mais que tu nous donnes de voir que nous sommes impliqués dans quelque chose qui nous dépasse, un plan qui nous dépasse et qui est orienté vers l'avancement de ton royaume, vers le monde, le out. Seigneur, donne-nous cette vision dans ces trois dimensions, connectés à toi, connectés les uns aux autres et connectés au monde. Et que tu nous utilises, Seigneur, que tu portes du fruit en nous, dans ce grand plan qui nous dépasse, l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine juste par un mot de témoignage qui s'est passé il n'y a pas longtemps. J'ai fêté mes 40 ans il n'y a pas longtemps. Et à cette occasion, on avait décidé avec Eva d'ouvrir la maison pour que les amis puissent venir tout au long de la journée. On n'a pas fait la grande fête, mais on a juste ouvert la maison. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées. À la fin de la journée, on était un peu, c'était 22h en fin de journée, il y a un de mes collègues de boulot, qui était un inspecteur de l'éducation nationale, que j'avais invité, qui est venu. Mais c'était un peu, vous savez, les fins de soirée où il n'y avait presque plus à manger, il y avait des verres encore qui traînaient, beaucoup étaient partis. Mais ils ont pu venir nous rejoindre. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire à ce moment-là. Il n'y a pas eu de temps de prière, il n'y a pas eu de partage de la Bible. On était juste là, entre amis et famille, à partager un temps ensemble. Et ce collègue, quand il est reparti, il m'a dit, quelques semaines après, qu'il avait été frappé avec son épouse par l'ambiance qu'il avait pu ressentir, par l'amour qu'il avait, c'était ses mots, l'amour qu'il avait les uns pour les autres. Moi, j'étais, waouh, on était en train d'étudier ces textes-là avec les groupes de maison. C'est juste énorme, Seigneur. C'était simple, il n'y avait rien de compliqué. C'était juste des chrétiens qui étaient réunis dans la simplicité et quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur et qui a goûté quelque chose, qui lui a fait dire, waouh, ça nous a interpellés. Et avec son épouse, ils se sont dit, ça nous pose la question de la foi. Quelques semaines après, ce couple, ils ont appris qu'elle était gravement malade et on prie pour eux en ce moment. Et je ne sais pas où ça en est, c'est un sujet de prière. Mais je vous donne l'exemple pour juste vous donner que quand on prend conscience de ça, c'est dans la simplicité de notre quotidien que Dieu agit de cette manière-là. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde saura que Christ est le Messie. Qu'on puisse vivre ces choses dans nos vies, cette semaine et dans les prochains mois.